Rebonjour à tous. On va reprendre en abordant la deuxième partie de la journée. Généralement, la deuxième partie de la journée se passe avec l'invitation d'un auteur de bande dessinée, un seul, et on dialogue avec lui sur son œuvre en général. Aujourd'hui, l'histoire est un peu différente, puisque nous recevons non pas un invité, mais trois, et on va parler non pas d'une œuvre entière, enfin de toute une œuvre, mais de deux albums en particulier, puisque nous recevons aujourd'hui... Donc en fait, on va parler de la série que vous avez ici, à l'écran, la série « Ils ont fait l'histoire », une nouvelle série, éditée à la fois par Glénat et par Fayard. On reviendra sur toutes les implications que ça a. L'idée, en deux mots, est de faire travailler ensemble des historiens, des scénaristes, enfin un ou plusieurs scénaristes et un ou plusieurs dessinateurs autour de l'adaptation, enfin, est-ce qu'il s'agit d'adaptation, ça c'est encore une autre question, de la publication en bande dessinée de biographies de grands hommes, sans restriction de lieu ou d'époque. Puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a autant du Genghis Khan que du Jaurès, du Napoléon que du Mao, du Charlemagne que du Catherine de Médicis. Donc vraiment, on touche des époques et des périodes très différentes. Aujourd'hui, nous recevons donc trois invités qui nous montreront bien les trois facettes de ce travail. Et c'est tout l'intérêt de cet entretien cet après-midi. Geneviève Burer-Thierry, historienne à Paris et spécialiste d'histoire médiévale. Cédric Hillan, éditeur chez Glénat. Et Christophe Regnault, dessinateur du... Alors, les albums sont au fond, enfin là, ils sont dans les cartons, mais tout à l'heure, ils seront au fond, et on va les faire circuler, et puis on pourra faire une petite séance de dédicace assez informelle à la fin de l'entretien.
Sinon, il est là.
Sinon, il est là, oui, voilà. Enfin, on va le faire circuler. La première question que je voudrais poser serait de revenir sur chacun de vos parcours individuels. Pour ceux qui travaillent dans le milieu de la BD, leur intérêt pour l'histoire, et pour ceux qui travaillent dans le milieu de l'histoire, leur intérêt pour la bande dessinée. Voilà. On commence par...
Par moi. La question était donc sur mon parcours. Mon parcours, j'ai fait des études de dessin à Lyon, à l'école Émile Cole, que certains connaissent. J'en suis sorti il y a bientôt 8 ans. Et la BD, c'est un truc que je voulais faire depuis que j'étais très môme. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Et puis par force de travail et puis de restructuration de mon dessin, tout ça, je me suis amené vers un éditeur, Cédric en particulier, qui a validé un petit peu mon travail et puis qui m'a après proposé le projet en question. Donc ils ont fait l'histoire sur Philippe Lebel que j'ai finalement accepté. Donc c'était assez simple dans le sens où on m'a proposé un projet. Sur le moment, je me suis dit pourquoi pas. Je suis pas un grand spécialiste de l'histoire au départ. Je suis un peu multigenre au niveau de la bande dessinée. Je lis tous les genres. Et le médiéval m'a intéressé pour ce que ça pouvait m'apporter de technique et puis d'apprentissage sur... je vais prendre par exemple les chevaux. J'ai envie de dessiner des chevaux, donc je sais qu'en médiéval, il y en a quand même pas mal. Et donc, du coup, c'est parti là-dedans. Donc, du coup, j'ai dit, OK, on y va, je fais Philippe Lebel.
D'accord.
Bah, moi, je vais dire un peu la même chose que Christophe à l'envers. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une grande lectrice de BD. J'ai bien lu des choses et il y a des choses qui m'intéressent. Mais je n'étais pas prédestinée forcément à jouer le rôle de conseillère historique de la BD. Il se trouve qu'on m'a proposé d'entrer dans ce projet que j'ai trouvé en tant que projet extrêmement intéressant, en tant que conception de la chose. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, sans forcément mesurer la somme de travail que ça allait me demander. Mais bon, voilà. Et les mails de Cédric à minuit moins le quart. Bon, mais ça fait partie du jeu, comme dans toute production de biens culturels où on est toujours, on a toujours du mal à finir à l'heure, où on travaille la nuit et où, bon, mais c'est normal. Hein, et j'ai beaucoup appris. Là, je suis très contente d'avoir dit oui. Pour finir.
Moi, je suis éditeur chez Glénat et mon parcours, c'est un petit mélange des deux parce que j'ai une maîtrise d'histoire moderne. Et ma passion pour la bande dessinée a fait que je me suis dirigé vers l'édition de bande dessinée. Et quand j'ai eu l'opportunité de joindre les deux, ça donne cette collection que j'ai initiée chez Glénat il y a maintenant 4 ans, 3-4 ans.
D'accord. Alors, la première question qui se pose est une question justement éditoriale, puisque ces albums, bah, vous le verrez en bas de chaque album, il y a les deux logos, le logo Glénat, le logo Fayard. Glénat est, bah, on l'a vu ce matin dans les BD qu'on a mis à l'écran, il y en avait quand même un bon tiers ou une bonne moitié qui viennent de chez vous. Glénat est l'un des éditeurs phares de la bande dessinée historique. Tous les amateurs d'histoire et de bande dessinée ont en tête la collection Vécu chez Glénat et Feu, le magazine Vécu, qui a vécu, c'est le cas de le dire. Comment, alors bon, Fayard est une maison d'édition en sciences humaines et tout particulièrement en histoire réputée. Comment s'est faite la rencontre entre deux maisons d'édition, ce qui ne va pas de soi au départ, et qui a initié le projet au départ?
Alors c'est Glénat qui a initié le projet, enfin ce projet-là en particulier. Il faut savoir que les coéditions entre éditeurs existent lorsqu'on ça peut, on peut adjoindre les services d'une maison d'édition généraliste à une maison d'édition BD. Ce sont deux spécialités, ça permet d'associer les talents. Là, sur cette collection, c'est exactement ce qui s'est passé. On a déjà collaboré auparavant avec les éditions Fayard, on a un très bon contact avec eux. Et lorsque nous avons eu cette idée de collection historique, on s'est tourné naturellement vers eux pour trouver un partenariat qui s'est fait de manière naturelle. Comme tu le disais, Glénat a une culture de la bande dessinée historique qui est très ancienne, qui est marquée, qui fait partie de son ADN. Et de son côté, les éditions Fayard ont la biographie historique dans leur catalogue depuis un siècle. Ça fait partie des points de départ de cette maison d'édition. Donc l'association, elle s'est faite un petit peu naturellement sur ce sujet-là. On a creusé ensuite ensemble la définition même du projet. Tu le suggérais à un moment, il était peut-être question de faire des adaptations des biographies existantes chez Fayard. On s'est éloigné de ce projet parce que, d'abord, faire un résumé d'une vie en 46 planches, c'est déjà une gageure. Le faire en s'attelant spécifiquement à travers une biographie existante, c'est une autre contrainte. D'autant que l'idée de cette collection est de plutôt s'adjoindre des historiens qui sont d'aujourd'hui, qui ont une vision moderne du personnage, et donc s'éloigner parfois de certaines biographies qui ont pris de l'âge.
Là, à l'écran, on a justement la liste de ces différentes biographies. Le Charlemagne et le Philippe le Bel ont la particularité d'avoir tous les deux été écrites par le même historien. Eugénie aussi, voilà, le Louis XI et le Machiavel. Est-ce que les bandes dessinées doivent forcément être tirées, alors tirées via, est-ce que les personnages des bandes dessinées doivent forcément correspondre à une biographie Fayard?
Aucunement. C'est pas le... Il n'y a pas de lien entre la collection de biographies Fayard et cette collection. Là, on est vraiment sur l'association en se disant, on va faire des... C'est une nouvelle collection. Hein. C'est, le principe de la coédition, d'un point de vue juridique, c'est la création d'une nouvelle maison d'édition spécifiquement dédiée à l'objet de l'association. Donc, la collection, ils ont fait l'histoire, et la seule collection, les seuls albums de cette association Glénat Fayard dans ce cadre-là. Donc l'idée est vraiment de s'attabler à traiter de grands personnages historiques que l'on va estimer à la fois intéressants sur le plan historique et pouvant intéresser aussi le grand public.
Comment se passe le travail entre vous deux, entre les deux maisons d'édition? Qui est à l'initiative de quoi? Qui décide quoi au départ? Qui a le dernier mot? Et comment se passe ce travail concret? Parce qu'on a du mal à voir déjà l'intérêt de ce travail en commun. Et surtout, quelles sont les modalités de ce travail en commun?
En tant que maison de bande dessinée, on s'estime professionnel sur la partie bande dessinée. Sur la partie histoire, on va revenir à ce qui était dit ce matin par rapport à une maison comme Assort BD. On peut faire un travail d'amateur. L'idée de s'associer à Fayard, c'est par le biais de Fayard d'avoir accès à des universitaires renommés et reconnus pour leur connaissance historique et d'avoir un côté professionnel. justement sur cette approche historique. Donc l'association, elle se fait vraiment sur ces deux points. Le travail en amont est fait sur le choix des personnages. Une fois qu'on a défini le choix des personnages, moi je vais chercher des auteurs de bande dessinée et Fayard va me proposer un ou des historiens spécialistes du sujet et qui vont souhaiter s'investir dans ce projet. Une fois que l'association est faite sur le papier, on organise une rencontre entre le scénariste et l'historien de manière à définir un angle d'attaque. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, écrire une biographie d'un grand personnage historique en 46 planches, c'est une gageure. On est obligé de passer, on va passer à côté d'énormément d'informations. Donc l'idée est de choisir un angle qui va permettre de définir le personnage et d'en dresser un portrait biographique plutôt qu'une biographie. Et c'est là où l'historien a sa réelle importance, c'est-à-dire qu'il va mettre sur la table l'ensemble des connaissances et va guider le scénariste vers ce que l'on doit faire ressortir du personnage. Si on prend Philippe Lebel, par exemple, le choix s'est porté sur le fait que c'est le roi qui a introduit la notion de le droit juridique dans la royauté française, et qui a imposé sa loi au sens premier du terme, pas uniquement par les armes, mais par le droit, par le sens légal. C'était important de mettre en avant cet accès-là. Pour Charlemagne, c'est le roi qui devient empereur. L'album s'arrête en l'an 800 lorsqu'il accède au statut d'empereur. On n'est pas allé jusqu'à pour les 14 dernières années de sa vie, sur quelles sont les autres conquêtes, ce qu'il a fait, etc. On a vraiment choisi un angle. Si je prends d'autres sujets qui vont sortir, qui ne sont pas médiévaux, mais le Jaurès qui va sortir prochainement en même temps que le Charlemagne, on a choisi de traiter les deux derniers mois de sa vie et le combat de Jaurès pour la paix contre la guerre de 1914-18 là, qui s'annonce. Parce que, selon l'historien qui s'appelle Vincent Duclerc, cette période et ce combat, c'est la synthèse de tous les combats de Jaurès auparavant. Donc on va avoir un album qui va retracer essentiellement ce combat-là et, par le biais de flashbacks, aborder les quelques autres points importants que sont la fondation de l'humanité, les grèves de Carmaux, l'affaire Dreyfus et ainsi de suite.
On voit à l'album, à l'écran, les albums les albums apparaître, donc sont déjà parus, ils sont au fond de la salle, le Versin Gétorix au mois de mars, je crois,
oui.
Et Philippe Lebel qui est dans la salle. Sortiront incessamment sous peu le Jaurès et le Charlemagne. En août, si je ne me trompe pas.
Oui, septembre.
Septembre plutôt. Mm. Bon, en septembre, Soliman Magnifique et Saint-Louis. Et en octobre, Genghis Khan et Napoléon. Ça fait un rythme de parution extrêmement soutenu pour l'instant, pour le début de cette collection. Est-ce que le rythme va continuer à cette puissance-là, et combien d'albums sont prévus au minimum?
Alors, on prévoit un minimum de 30 albums. Il y en a 6 qui sont calés pour 2015. Et on va continuer a priori sur un rythme autour de 6 par an. L'idée des 8 était, là c'est vraiment l'approche éditoriale, c'était d'imposer très rapidement cette collection comme un incontournable et de montrer très rapidement 8 albums qu'on couvre aussi bien graphiquement qu'historiquement un petit peu tout le panel.
D'accord. Comment s'est fait le choix? D'une part des auteurs, scénaristes, dessinateurs, d'autre part des historiens. Qui a eu la main sur la décision et comment ça s'est fait? Parce que ça, sur des historiens, sur Jean Jaurès, il y en a quand même 2 ou 3. Des dessinateurs capables de le faire, il y en a aussi un peu plus que 2 ou 3. Et des scénaristes, idem. Comment ça s'est fait ce choix et qui l'a dicté?
Alors, cette collection est vraiment est vraiment un travail éditorial, au sens où la plupart du temps, donc on va dire 70-80% des cas, les albums qui sont publiés en bande dessinée sont des initiatives d'auteurs. On nous présente un projet que nous acceptons et que nous accompagnons jusqu'à sa sortie en librairie. Dans le cadre de cette collection, c'est une initiative d'éditeur où, avec Fayard, nous avons décidé du concept, du contenu, de la manière dont ça allait être construit, la pagination, le choix des thématiques, etc., jusqu'à définir un esprit de dessin, c'est-à-dire qu'il n'y aura que du dessin, on va dire, réaliste, grosso modo, même si derrière ce terme, on peut avoir une palette de dessins très différents. On restera dans le dessin dit réaliste. Au niveau des scénaristes, le choix il se fait essentiellement par, on va dire, connaissance, rencontre et acquaintance.
Ouais, voilà.
Et donc ça, c'est plutôt ma partie. Et je présente évidemment à Fayard le travail des dessinateurs pour valider, pour qu'on soit tous bien d'accord. De son côté, Fayard propose des historiens, puisque justement par leur propre publication, ils sont en contact avec tout un tas d'historiens, que ça soit pour des collectifs, des ouvrages ou même enfin, pour d'autres travaux. Ils ont leur propre réseau d'historiens dits universitaires, et c'est ce qu'on demande, c'est cette reconnaissance-là, et c'est leur travail.
Vous parliez de l'aspect justement du dessin réaliste. On a de la bande dessinée historique, on a de la bande dessinée pédagogique avec un trait non réaliste qui parfois marche bien, parfois c'est pas le cas, mais parfois marche bien. Pourquoi avoir imposé un trait réaliste par souci de légitimité, ou c'est pas possible d'avoir un discours sérieux avec un dessin soit non réaliste, soit semi-réaliste?
Non, alors la question n'était pas tant celle-ci que d'un choix de cohérence éditoriale, de dire pour cette collection, on va partir sur un dessin réaliste. Voilà. On ne mélangera pas de l'humour avec un dessin jeunesse et un dessin réaliste. C'est une cohérence éditoriale. Ensuite, le fait de s'attacher par le biais d'un dessin réaliste à reproduire le plus possible la vérité historique, je pense qu'avec d'autres styles graphiques, on peut y arriver aussi. Mais le ressenti n'est pas le même. Le ressenti auprès du grand public. Il y a, c'est un a priori qui est le mien, une approche, quand on s'adresse au grand public, quand tu proposes un dessin dit réaliste, tu suggères aussi que ce qui est dans l'intérieur peut être réaliste. Et à l'inverse, quand tu proposes un dessin humoristique, la question de réalisme ou de recherche documentaire a beaucoup moins de sens. Alors qu'il peut y en avoir énormément, et c'est pas la question. Mais en termes de ressenti par le grand public, c'est pas le même.
C'est une question de projection, en fait. C'est que le lecteur va forcément se projeter dans la BD, dans l'histoire. Et à mon avis, le dessin réaliste, et a priori, ou semi-réaliste, pour certaines fois, est le plus intéressant pour ce genre de produit, de toute façon. Donc, parce que on s'identifie plus à une base de l'histoire, à une période donnée, quand on a les éléments qui sont dessinés réalistiquement, etc. etc. quoi. C'est tout simplement juste une façon de se projeter dans l'histoire.
Je pense à Yvan Pommeau, par exemple, pour le Moyen-Âge, qui a un trait semi-réaliste,
jeunesse,
et qui arrive à créer, qui est sûrement un de ceux, il n'y a pas beaucoup de réussite en BD médiévale, mais qui est sûrement un de ceux qui a réussi à le plus créer une ambiance. Ça peut marcher. Alors, il a pas c'est pas de la BD pédagogique, pas didactique en tout cas, mais il a...
Non, mais tu te limites, tu t'adresses à un public jeunesse.
Prends Le Combat Ordinaire. Le Combat Ordinaire est une bande dessinée qui n'est pas du tout une bande dessinée historique,
non.
Qui est sûrement un des plus gros succès de la BD des 10 dernières années, et qui a un trait également semi-réaliste.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout le propos en fait, du sujet, la BD. Quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement de la BD historique, c'est quelque chose entre guillemets sérieux, dans le sens, en plus, vu comme c'est présenté par l'éditeur et par les auteurs, c'est censé être sérieux pour que ça soit un minimum pédagogique, ou en tout cas ludique. Et alors qu'une bande dessinée comme par exemple Franck Combat Ordinaire, où le dessin est peut-être un peu plus, pas du tout réaliste même, le propos c'est les réflexions du personnage. Au final, ça n'a pas d'intérêt que ça soit très bien dessiné. Ce qui est important, c'est ce qui est raconté. Alors que dans le dessin réaliste pour la BD historique, là, on a envie d'avoir... Enfin, en règle générale, les lecteurs voudront qu'ils aient une représentation à peu près fidèle de ce que c'était à l'époque, etc., etc. Ce qui fait que du coup, on s'installe dans un code comme celui-là, je pense.
Et du coup, vous parliez, quand on a parlé de l'histoire de France de Casterman, mais là, on a un exemple de l'histoire de France de Larousse. Et en termes de modèle, ou plutôt de contre-modèle, est-ce que... justement, l'histoire de France de Larousse a été pour vous une source d'inspiration, mais pour vous en éloigner, ou ça a été quelque chose que vous avez utilisé d'une certaine manière dans votre démarche, que vous n'avez pas du tout pris en compte en la repoussant totalement dans les oubliettes de la BD?
Alors, c'est difficile de repousser dans les oubliettes de la BD, vu que ça a été un succès éditorial majeur dans les années 70-80. Qui un succès tellement important que même Le Monde l'a ressorti début des années 2000. Donc on est forcé d'en prendre compte. Par contre, juste c'est un excellent exemple de ça correspond à de l'histoire dans les années 70. La vision du personnage de Vercingétorix, par exemple, est très datée. C'est vraiment le Vercingétorix version 19e siècle tel qu'il a été mis à l'honneur à l'époque de Napoléon III, alors que justement les intentions de cette collection est d'apporter une vision moderne, c'est-à-dire quel est le Vercingétorix que l'on peut proposer aujourd'hui. C'est assez basiquement le Vercingétorix qui est présenté ici, qui est dessiné par Victor de la Fuente. C'est un personnage avec un casque un peu improbable, des longs cheveux et une grosse moustache. Il se trouve que les recherches historiques ont bien montré, et même dès les années 70, on savait que le personnage de Vercingétorix était vraisemblablement plus romanisé que le montre cette vision d'Épinal. Donc le travail qui a été fait par l'historien avec l'auteur, c'est avec le dessinateur notamment, qui avait cette vision à l'image d'Épinal, c'était lui dire non, Vercingétorix, il était glabre, il était une belle coiffure, bien coiffé, tout ça, et il était avec un uniforme plutôt romain, avec des armes que même les Romains récupéraient sur les champs de bataille, parce que les forgerons gaulois étaient meilleurs que les forgerons romains. Voilà, donc il fallait replacer un petit peu certaines choses. Voilà, ça reste quelque chose qui est un exemple sur lequel on pouvait s'appuyer en prenant ce qui était intéressant de ce qu'il ne fallait pas suivre.
Et du coup, juste là, on voit l'histoire de France, le thème c'est les croisades par exemple, et le choix de ne centrer que sur des grands hommes, qui est une notion qu'on pourra peut-être discuter en termes de choix des personnes sur lesquelles travailler, mais pourquoi ne choisir que ce thème
des grands hommes
et pas faire par exemple des phénomènes comme les croisades ou...
Parce que si Sophie de Colzé,
Sophie de Closet,
donc qui est la directrice des éditions Fayard, quand elle est interrogée sur cette collection, dit cette collection a pour but de créer des récits fondés sur les dernières avancées de la recherche. Les dernières avancées de la recherche auraient plutôt tendance à minimiser le poids des grands hommes et à sortir justement d'une histoire des grands hommes. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux objectifs ?
Eh bien, pas du tout. Je vais différencier dans ce propos-là. Quand elle tient ces propos-là, Sophie parle spécifiquement de cette collection, justement sur des personnages. Le choix qui a été fait très vite de s'attacher à des grands personnages et de s'attacher à raconter l'histoire avec un grand H au grand public. On en discutait tout à l'heure à table. Un des problèmes de l'éducation aujourd'hui, de l'éducation nationale, quand on raconte l'histoire, c'est justement de se détacher complètement de la notion de date et de personnages qui peuvent être emblématiques. Or, quand on raconte une histoire avec un petit H, on raconte une histoire avec des personnages. Et que si tu veux intéresser un public qui, à la limite, s'intéresse très peu à l'histoire, n'a que des connaissances que, vraiment parcellaires de l'histoire, tu vas le ramener à l'histoire en résumant, certes, à travers un personnage qui peut être, et ce personnage est symbolique d'une époque. C'est dans cette démarche-là que nous avons fait le choix de s'attacher à faire des portraits biographiques de personnages. Lorsqu'on parle de Jaurès en 1914, on va traiter du personnage, de son rapport au combat pour la paix. On va traiter le portrait biographique de ce personnage, évoquer, comme je le disais tout à l'heure, son combat pour les mouvements sociaux, la fondation de l'humanité, etc. Mais mine de rien, à travers cet album, on a une présentation de la situation en 1914, juste avant la déclaration de la guerre, quelques jours plus tard.
À la fin des albums, il y a des petits making-of où les historiens qui ont travaillé sur l'album s'expriment. Dans celui sur Philippe Lebel, Valérie Tess écrit « Notre but n'était pas seulement de raconter la vie d'un homme, mais de faire apparaître à travers elle les grands enjeux de son temps, la construction de la monarchie, les problèmes financiers, les conflits féodaux, la place de l'Église et de la papauté. » Comment mettre en scène, en bande dessinée, des concepts aussi théoriques et aussi généraux que la construction de la monarchie? Et est-ce que, quand Valérie Tess et Étienne Anheim ont travaillé avec Mathieu Gabella, ou avec toi, je ne sais pas, est-ce qu'ils vous ont dit « représenter la construction de la monarchie » ou est-ce qu'ils vous ont directement livré un ou deux épisodes montrant concrètement, parce que ça passe par du concret, la construction de la monarchie. Comment ça s'est fait
C'est exactement ça. Ils ont donné un certain nombre d'outils, d'exemples, de références qui permettaient aux scénaristes de s'appuyer sur des éléments concrets pour construire son histoire. Le travail se fait vraiment à quatre mains. Je pense que Geneviève pourra en parler sur Charlemagne. Il y a d'un côté l'apport de la connaissance historique au-delà des grands mots que tu cites. Derrière ces grands mots, il y a des faits historiques tangibles, des exemples, des constructions concrètes qui permettent ensuite aux scénaristes de les agencer, de les mettre en scène, de faire une dramaturgie par rapport à tout ça.
D'accord.
Si je peux rebondir sur la question précédente, c'est précisément d'avoir choisi l'angle de la biographie qui permet de faire ça. C'est-à-dire, en se focalisant sur un personnage et son entourage, on va avoir beaucoup plus de facilité, même si ça reste très très difficile, à produire un séquençage avec des éléments qui montrent un certain nombre de choses concrètes, qui montrent un certain nombre d'éléments. Alors que si on entre, enfin, je ne sais pas si on peut imaginer, bien sûr, on peut faire une BD sur les croisades, je ne sais pas ce qu'on raconte trop d'autre que la prise de Jérusalem, etc. Bon, mais ça reste très factuel. Mais est-ce qu'on peut faire une BD sur la construction de l'État à la fin du Moyen-Âge? Je ne crois pas. Comme ça, non, parce qu'il faut que ce soit incarné dans quelque chose. L'intérêt de la biographie, c'est de l'incarner dans un personnage principal et dans les personnages autour de lui.
Béatrice, peut-être.
Est-ce que c'est possible de poser des questions?
Bien sûr, à tout moment, oui, bien sûr.
J'étais juste un petit peu interpellée parce que vous parliez donc de grands personnages, de grands hommes, et en fait, dans la liste des personnages que vous venez juste d'évoquer, il me semble y avoir, pour le moment, je sais que la collection est en train d'être lancée, mais pour le moment, il me semble y avoir un grand manque.
Les femmes,
il n'y a pas de femmes.
Les femmes.
Ça arrive.
J'imagine, hein, mais en fait, juste pour poser la question qui est lancée en dernière, c'est que. Quelle vision, en fait, de l'histoire la collection propose-t-elle et dans quelle mesure se comprend-elle comme un moyen de faire éventuellement évoluer les mentalités? Parce que nous savons que ce qu'on recherche spontanément en tant que lecteur dans une BD historique saisante, ce sont des personnages qu'on connaît déjà du canon établi. Or, le canon établi étant très masculino-centré, il est logique que vous êtes un peu tributaire de ce marché-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi dans l'obligation, mais ce ne serait pas sympathique aussi qu'on puisse un petit peu, avec cette entreprise-là, inverser un peu la tendance et justement proposer des types d'études sur les personnages femmes qui sont par ailleurs, et malheureusement encore, assez couvertes par le voile d'histoire et qui était plus propice en fait à la représentation en pompe et en face en fait d'hommes que de femmes. Donc je pense, bah, évidemment, vous allez faire Jeanne d'Arc, c'est évident. Aller dans la ville d'Aquitaine, ce serait chouette.
C'est sur la liste.
Pour, voilà, pour être dans d'autres idées, voilà, Isabeau de Bavière, Elisabeth de Schönau, voilà, il y a toute une
copie
de personnages.
Alors, pour parler concrètement, les personnages féminins qui sont lancés dans cette collection, Catherine de Médicis, Jeanne d'Arc, Elisabeth Ière d'Angleterre, Cléopâtre est dans les tuyaux, et il y en a une cinquième, je crois qu'il n'y a pas encore d'historien sur ce, donc je vais le mettre de côté. J'entends tout à fait cet argument, et alors, le principe d'une... Je vais être très trivial. Le but est de lancer une collection comme celle-ci, même s'il y a des velléités pédagogiques et d'essayer de dépasser le cadre du simplement ludique de la bande dessinée. Mine de rien, ça reste une entreprise commerciale, qu'on sait très bien que si on veut pouvoir toucher un public, il faut d'abord l'attirer. Donc on l'attire aussi avec des personnages relativement connus, faciles d'accès et qui vont lui permettre de prendre une certaine confiance avec cette collection. Et j'espère bien effectivement arriver à un moment donné, je parlais tout à l'heure, il y a une trentaine de projets qui sont dans les tuyaux, une fois qu'on aura dépassé cette trentaine de projets, pouvoir aller vers des personnages, que ça soit masculin ou féminin, mais peut-être moins fort ou facile entre guillemets, pour aller chercher quelque chose d'un peu plus original. Mais c'est quelque chose sur le plan éditorial qui est compliqué à faire d'entrée.
Je comprends bien. Je trouve que l'enjeu est justement, pour être une bonne entreprise, aussi bien commerciale qu'intellectuelle, c'est de faire en sorte que le curseur se déplace vraiment efficacement. Parce que si, par exemple, si j'étais amenée en tant que littéraire ou historienne à faire, par exemple, une critique littéraire sur un nouveau projet de collection en BD comme ça, si je devais l'évaluer, je prendrais en considération, moi, par exemple, le plan. Voilà, est-ce qu'actuellement, on est dans une vision un peu archaïque et très canonique, voire un peu... Voilà, de l'autre peut-être de l'histoire qui fait déjà, voilà, effectivement plus tellement l'histoire de l'identité, mais plus une histoire de, voilà, par biographie, ce qui est défendable, ce qui, sur le plan du livre, est tout à fait intéressant. Mais est-ce que je reste effectivement dans des trucs qui sont attendus, ou est-ce que je parviens à bouleverser aussi parce que j'attire le regard sur les personnages qui méritent de l'être ou qui méritent d'être racontés en BD? Et c'est là pour moi le défi, c'est-à-dire, tant qu'éditeur, j'aurais évidemment le côté financier en tête parce que c'est votre pain quotidien, il faut bien livrer quelque chose, d'accord. Mais en même temps, je dirais, je resterai sur ma faim en tant qu'éditeur ou en tant que lecteur ou critique si je ne rentre pas en fait là aussi la vision historique moderne et un peu différenciée tout de même par rapport à ce qui a pu se faire il y a 50 ans.
On essaie d'avoir cet enjeu-là justement en associant des universitaires d'aujourd'hui. Quand on travaille avec Geneviève, avec Valérie Tess, avec Julien Loiseau qui travaille sur Soliman, ce sont des jeunes.
Enfin, les autres sont nettement plus jeunes que moi.
Oh, il y a Jean Tullard.
Ah oui, il y a Jean Tullard, oui, c'est là. Qui a 85 ans. Donc.
Voilà, mais je pense que ce seront les universitaires qui vont amener justement ces informations-là. J'ai beau avoir fait des études d'histoire, je ne suis pas là en tant qu'historien, je suis là en tant qu'éditeur. Donc je laisse la place aux historiens d'apporter cette connaissance historique. Quand je travaille avec Julien Loiseau, par exemple, sur Soliman le Magnifique, de lui-même, il a guidé les scénaristes et moi-même vers une option du portrait de Soliman qui était complètement à l'antithèse de ce qu'on aurait pu imaginer au point de départ. Les scénaristes étaient partis sur l'histoire avec Roxelane, l'histoire d'amour, etc. Moi, je voyais quelque chose d'un peu plus académique. Et finalement, Julien a tiré le récit vers la fin de vie du personnage de Soliman en attaquant l'angle de la succession. En sachant que, grosso modo, Soliman a fait exécuter tous ses fils, sauf un, pour préserver l'Empire. Et cette raconter cet épisode-là de cette manière-là, voilà, c'est vraiment le choix de l'historien.
Justement, une question, la question qui va qui suit de manière logique, c'est le rapport entre l'historien, le scénariste et entre les différents auteurs du même projet. Est-ce que l'historien impose un angle, ce qui semble être le cas justement avec Julien Loiseau,
propose.
Et ensuite, le scénariste le développe à l'aide de sa connaissance des fils de la narration, qui est quand même sa spécificité. Je vais juste donner un exemple, c'est celui de Mathieu Gabella, donc le scénariste du Philippe Lebel, qui voulait, ce qu'il explique dans une interview, je crois, qui voulait développer la psychologie de Philippe Lebel, expliquer ses motivations profondes, ce qui ne semble ne pas avoir plu à Valérie Teix et Étienne Naim, qui l'en ont dissuadé, ayant peur que Gabella en fasse, je cite, un génial méditatif qui parle à son miroir. Et si on prend par exemple cette couverture qui ne semble pas avoir été la couverture définitive, est-ce que c'est pour cette raison que la couverture a été modifiée parce que l'interprétation était trop psychologisante? Et qui a le dernier mot à la première étape du projet, hein? Ensuite, on abordera plus d'autres étapes, mais à la première étape du projet, si Julien Loiseau dit on veut faire ça, ou Étienne ou Valérie disent on veut faire ça, si Mathieu Gabella n'est pas d'accord, ça se passe comment
le dernier mot, c'est moi.
Mais il y a beaucoup de discussions. Enfin, je crois qu'on essaye précisément non pas d'imposer nécessairement sa vision, mais d'aller pas à pas, d'expliquer petit à petit vers quel ensemble cohérent on peut aller, quel fil de narration on peut accrocher pour construire le scénario. Parce que la grande difficulté, moi je l'ai ressenti comme la plus grande difficulté, c'est le séquençage, la construction du scénario. C'est extrêmement difficile. Contrairement, par exemple, je suis très frappée dans ce que vous avez, dans ce que Clotilde a montré ce matin, ou dans l'exemple de la géographie soulevé par Bernard Bischoff. Évidemment, si on adapte une œuvre littéraire, ou si on adapte une vie de saint, la vie de saint, c'est génial, parce qu'on prend la légende dorée, ça je suis sûre, on peut faire toute la légende dorée en bande dessinée, c'est très facile, le scénario il est écrit là, toutes les séquences sont là, c'est extrêmement commode. En revanche, s'attaquer à une biographie politique, parce qu'en réalité, pour répondre aussi à la question de Béate, les personnages qu'on a choisis sont des grands personnages de l'histoire politique. On est bien d'accord que dans l'histoire, il y a autre chose que du politique, mais pour l'instant, on s'est occupé de ça. D'où plus d'hommes que de femmes, forcément. Pour développer une biographie politique en 46 planches, il faut évidemment supprimer tout un tas de choses. Et pour que ça reste cohérent, imaginer un fil de narration qui démontre quelque chose. La construction de l'État moderne, la volonté de reconstituer l'Empire, que sais-je, de protéger l'Empire de Soliman, etc.
Alors, je voudrais reprendre justement dans le détail toutes les étapes du travail, parce qu'on est là justement pour décortiquer ces différentes étapes. La première étape, c'est la note d'intention, faite ensemble par les scénaristes et les historiens. Puis ensuite, on a le chemin de fer, c'est comme ça qu'on appelle ça ?
Chemin de fer,
qui en est tiré. C'est un travail commun, et donc moi j'ai pu accéder, grâce à Geneviève Buartieri, aux arcanes un peu de comment ça s'est fait. Donc, ce que je montre en rouge, en noir, c'est ce qui a été écrit par Mathieu Gabella.
Non, c'est sur Charlemagne, donc c'est...
Par Vincent Delmas.
C'est Clotilde Bruno.
Et en rouge, des ajouts de Geneviève Buartieri. Et donc, ce qui est intéressant quand on étudie le chemin de fer, enfin les notes d'intention du chemin de fer, c'est qu'il y a à la fois des corrections que vous apportez. Donc là, par exemple, c'est clair, c'est ce tableau, disons non, c'est pas un bon exemple, ça va pas pour telle ou telle raison. Donc, j'ai juste pris un exemple, mais j'aurais pu en prendre 10 autres. Donc soit des corrections, soit des ajouts. Donc là, on est dans les notes d'intention, je crois. On a année par année. Ce qui est en noir, c'est ce que les scénaristes ont écrit. Et Geneviève Buartieri a rajouté une autre année en mettant, voilà, en telle année, il s'est passé ça et ça. Donc là, on n'est pas dans une correction, on est dans un ajout. Et donc, cette première étape, avant l'étape du scénario, comment est-ce qu'elle se passe et qui a un regard dessus? Donc vous, l'historien. le scénariste, le ou les scénaristes, est-ce que le dessinateur a déjà son mot à dire et est-ce que l'éditeur peut chapeauter le tout ? Comment ça se passe cette première étape qui est vraiment l'étape à 4, 8, 16 mains ? Ça se passe comment ?
Alors l'éditeur, c'est le chef suprême, c'est-à-dire que c'est lui qui valide à la fin, qui dit oui, ça c'est bon, maintenant on y va. Bon. Sinon, enfin, comme vous l'avez dit, moi on m'a envoyé une première proposition avec, en gros, quelles sont les années qu'on retient ? Qu'est-ce qu'il y a d'important à mettre en scène dans ces années-là ? Est-ce qu'il semble manquer quelque chose ? Et là, moi, bon, il me semblait qu'il fallait absolument parler de la situation du pape, parce que sinon, on ne comprend pas comment Charles a pu devenir empereur. Donc, voilà. Donc, j'ai ajouté ça. Mais c'est... Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, d'une certaine manière.
Après, pour ce qui est du dessinateur, moi, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire sur ce qu'on me proposait au niveau du texte et du séquencier. En règle générale, je laissais beaucoup Mathieu Gabella et les historiens se mettre d'accord sur ce qui était censé être à raconter. Et quoi qu'il en soit, s'il y avait des rectifications, je leur disais de, si possible, faire la rectification avant que je fasse les premiers essais, pour que je puisse savoir où est-ce que je devais aller, pour pas refaire plusieurs fois la même chose, ou en tout cas être le plus efficace possible. Mais sinon, non. S'ils me proposent une scène particulière avec tel élément, tel personnage, telle configuration, etc., etc., je dois m'y appliquer et puis faire mon possible pour que ça rentre et que ça puisse être lisible, puisque moi, c'est mon principal souci, c'est que c'est la lisibilité. De
toute façon, on reviendra sur le dessin tout à l'heure. Et l'éditeur, à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui...
Le dernier mot. C'est qu'à un moment donné, valide. Quand les scénaristes et historiens ont travaillé, ils sont arrivés à un découpage qui tient la route. Quelque part, moi, je valide en disant... Voilà, scénaristiquement, je pense qu'il y a quelque chose à construire et qui va fonctionner. Et puis, ça correspond au canon de la collection tel qu'on l'a conçu avec ma collègue de Fayard.
Et donc, tu peux poser ton veto sur telle ou telle idée ou telle ou telle...
Bien sûr.
Et tu t'en as usé de ton veto sur certains albums. On ne demande pas des détails concrets, hein, mais...
Bien sûr.
Oui. En fait, chaque on va dire, chaque participant au bouquin a son savoir, sa connaissance, ses techniques. Et c'est une conjugaison des trois. C'est-à-dire que l'éditeur va être là pour savoir ce qui est... il a l'habitude d'en lire et il les fait. Donc, il sait ce que c'est que d'écrire une BD, ou en tout cas de la lire. Et il sait ce que le lecteur comprendra ou pas au moment où il voit les planches arriver devant lui. Moi, en tant que dessinateur, j'ai mon savoir pour ce qui est de construction de cases, de planches, de la taille des bulles, etc. Bon, c'est chacun son domaine, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en premier, les scénaristes et les historiens sont mis de concert. Donc, les scénaristes savaient qu'il fallait, mettre en branle l'histoire avec tout ce que ça implique d'interaction de personnages, de dramatique, c'est-à-dire en gros pour que ça soit raconté, que ça soit rigolo à lire, en tout cas intéressant. Rigolo, c'est un grand mot. Et les historiens pour le côté véracité du côté historique. Et c'est tout. C'est en gros, c'est juste ce qui s'est fait, c'est que en premier l'historien, les scénaristes. Après pour le reste, l'éditeur dit, bah oui, mais c'est pas lisible, on comprend pas. Enfin, il y a trop de choses, il y a trop d'éléments. Donc revenez dessus, essayez d'être plus clair ou couper des éléments s'il faut pour que ça soit visible.
Quand on prend l'étape suivante, qui est l'étape du scénario, on voit, alors là c'est encore un autre exemple, on voit, c'est toujours le même principe, en rouge les corrections de l'historien, en noir le texte écrit par le scénariste, on voit des désaccords. Alors là par exemple, on a une mécompréhension du scénariste de ce qu'est une fortification carolingienne. On a un exemple de désaccord à l'étape du scénario. Si on prend l'étape suivante, on a là un désaccord entre l'historien et le scénariste à l'étape du dialogue. Le scénariste voulait que Charles Magne dise « Prépare ta réforme pour la prochaine assemblée, tu as un mois ». Là, on se croit, ça pourrait être du Jaurès, en fait. Ça pourrait être du Jaurès à l'Assemblée nationale. On est dans un dialogue qui est avec des termes qui sont plus des termes 3e République ou 4e ou 5e que 795. On a vraiment une approche anachronique. Et à ce moment-là, c'est vraiment le travail de l'historien que de critiquer et en même temps que de proposer autre chose. Et c'est en même temps le travail de l'éditeur aussi que de, à ce moment-là, comment ça se passe aussi? C'est une critique, mais une critique qui doit être à chaque fois avec une solution derrière.
Alors, quand vous dites qu'il y a un désaccord sur la diapo précédente, là, oui, là, c'est clairement un désaccord de forme. Je dis ça, cette forme-là ne va pas, mais on va revenir sur les questions de comment les faire parler, dans quel langage, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, prépare ta réforme, tu as un mois. Déjà, il n'y a pas de mois parce qu'on voilà, on mesure pas le temps comme ça, donc c'est pas possible. Là, dans cette phase-là, c'est pas un désaccord à proprement parler, c'est plus une mise en garde. C'est-à-dire que quand je vois plan serré sur Charles en contre-plongée qui observe le château depuis une colline, j'imagine que je vais avoir, avant même qu'il dessine quoi que ce soit, j'imagine que je vais avoir une forteresse féodale. Donc là, je dis tout de suite, attention, stop. Avant même, donc c'est pas un désaccord, c'est simplement attention à ce que j'écris. Attention au visuel ici, il n'y a pas de château, puisque voilà, le château, c'est, il n'y en a pas de château. Bien placé pour le savoir, pas de château avant le 10e siècle, 11e, et en tout cas pas le château tel qu'on l'imagine, pas de fossé, pas de pont-levis, etc. Donc arrivé dans une résidence carolingienne, je voulais les sensibiliser, et les scénaristes et le dessinateur, au fait qu'on n'est pas dans ces canons du Moyen-Âge que tout le monde connaît, parce que c'est une autre réalité.
Pour resituer juste deux petites secondes, quand je vais chercher des scénaristes, je ne vais pas les chercher pour leur connaissance historique. On sait très bien qu'il y a un historien qui va être à côté pour apporter cette connaissance. Les scénaristes sont là vraiment pour être capables d'embrasser un sujet et de trouver une dramaturgie pour rendre le maximum d'informations. Voilà. D'où toutes les corrections qui ont lieu à tous les albums, où l'historien justement amène, corrige, amène d'autres idées, fait en sorte de faire rentrer le pédagogique dans l'œuvre d'auteur que sont censés faire les scénaristes.
C'est dommage qu'on n'ait pas de scénariste à cette table, ça aurait été intéressant parce qu'il nous manque un maillon là. Mais Mathieu Gabella a fait 2-3 interviews sur internet où on lui pose systématiquement la question, est-ce que c'est frustrant d'être réduit à l'état d'artisan? En gros, l'idée c'est ça, est-ce que ta créativité est réduite et est-ce que c'est pas frustrant? Parce qu'un scénariste, habituellement, est seul maître à bord. En tout cas, il est principal maître à bord. Là, est-ce qu'il n'est pas réduit à un rôle de dialoguiste, en fait?
Tout l'enjeu de l'ambition, toute l'ambition de cette collection, c'est d'arriver à conjuguer d'un côté le côté pédagogique, didactique, informatif sur le plan historique, en étant le plus clair et le plus vrai possible, je mets vrai entre guillemets, et de l'autre côté, on demande à chaque scénariste, à chaque auteur, de faire œuvre d'auteur. Ce n'est pas parce que tu donnes à un auteur des contraintes qu'il ne fait pas œuvre d'auteur. Là, il a des contraintes, c'est de s'attacher à la vie d'un personnage, avec un historien qui va le cadrer et lui donner des informations pour respecter un plan de départ, qui est la note d'intention. Maintenant, moi, ce que j'attends des scénaristes, c'est qu'ils proposent un récit qui soit le leur. Dans le cas de Mathieu Gabella, qui s'attaque à Philippe Le Bel, il n'a pas choisi le personnage de Philippe Le Bel par hasard. Je lui ai dit, ben voilà, je te propose une liste de personnages, quels sont ceux qui t'intéressent? Il a choisi de s'attaquer, il va faire deux autres albums dans cette collection qui sont Talleyrand et Catherine de Médicis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les personnages un peu torturés qui vont insister justement par leur manipulation, leur pouvoir. Donc ce personnage l'intéresse. Les informations que lui avons apportées les historiens, c'est un travail que lui ne va pas avoir à faire tout seul, à travailler dans son coin, à aller chercher les informations, vérifier que ces informations sont bonnes, etc. Là, tout est prémâché, entre guillemets, par l'historien. Il fait œuvre d'auteur. Son choix de narration, la manière dont il va traiter le personnage, les relations, etc., c'est lui qui les choisit. Il les choisit avec l'historien, mais c'est aussi lui qui les choisit pour donner une vraie force à son personnage. Le choix de Jaurès, sur travailler sur vraiment la dernière les derniers temps de sa vie, c'est un choix qui a été fait en concertation entre Jean-David Morvan, le scénariste, et Vincent Duclerc, l'historien. Ils se sont entendus en disant tout de suite, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, ça va me permettre de brasser l'essentiel du personnage. Le fait de traiter ça sur quasiment un mois, en travaillant les flashbacks de la manière dont ça a été fait, c'est le choix du scénariste, vraiment.
Alors, après avoir abordé les étapes du proprement et uniquement écrites, on peut aborder les étapes qui commencent à être dessinées, avec ici la question du board. Donc là, on a un problème de lisibilité, c'est-à-dire que donc on est vraiment à la première étape du travail de dessin. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'absence de lisibilité, en fait. Et ça, c'est ce qui est fourni à l'historien. On dit voilà, la planche elle ressemblera à ça. Et ici, on a un exemple de la trappe. C'est, en fait, là, vous avez la planche finale et là, vous avez le board initial. Pourquoi j'ai montré ça ? Parce que la trappe, là, n'est pas extrêmement lisible. Et en plus, elle est mal placée. Mais ça, on va parler de Geneviève Burti en deux secondes. C'est peu lisible et mal placée, alors que là, on voit que la trappe est passée sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. Trappe devant, trappe sur le côté. Est-ce que le board qu'on vous fournit est finalement piégeux parce que peu lisible ? Est-ce que pour l'historien qui n'est pas spécialiste de bande dessinée, ce n'est pas une chose trappe, justement ?
Mais je ne dirais pas qu'il est peu lisible. Je dirais qu'il est peu utilisable par quelqu'un qui n'est pas du métier, ce qui est notre cas, à nous autres pauvres historiens. Donc c'est vrai que la validation des boards, ça a été la pire étape pour moi, parce que de toute façon, je ne voyais rien. Et donc après, quand arrivait le crayonné, je disais « Oui, mais ça va pas. Oui, mais tu ne nous l'as pas dit. Mais je n'avais pas vu. » Donc, voilà. Et c'est logique, parce que nous n'avons pas l'œil suffisamment exercé sur ce type de choses pour voir où sont les pièges. Et du coup, effectivement, on a laissé passer plein de choses qu'on a été obligé. Donc là, on leur a fait perdre beaucoup de temps. Ça, je plaide coupable.
Ensuite, on passe à l'étape suivante, qui est l'étape du crayonné. Alors là, on a, j'ai plutôt montré des scènes, des moments de désaccord entre historiens et auteurs. Donc là, sur ce crayonné, on voit Charlemagne qui prend de manière...
désinvolte,
il prend la couronne. Il prend la couronne sur la tête, voilà, comme il prendrait son manteau sur un porte-manteau. Et ça, c'est la version finale. Donc à ce moment du crayonné, vous avez encore toute possibilité. Ça veut dire que sur le board, c'était pas lisible ?
Non, sur le board, j'avais déjà dit ça va pas, mais on était déjà à une étape ultérieure. Enfin, alors après, se caler dans la chronologie de la chose, c'est pas très facile. Surtout qu'avec Gwendal Le Mercier qui a fait les dessins pour Charlemagne, il y a eu un laps de temps en fait très long entre, il finissait sur un autre projet, entre le moment où on a fini les boards et le moment où il a commencé. Et en fait, il a pas pris les planches dans l'ordre. Donc c'est arrivé un peu dans le désordre pour moi, et du coup des choses sur lesquelles j'avais dit non, ça va pas, l'info lui était pas parvenue, ou trop tard, ou il avait déjà commencé, que sais-je. Et donc bon, mais c'est sûr que tant qu'on est à l'étape du crayonné, on peut encore changer des choses, oui.
Et alors à l'étape suivante, là vous avez, non, on n'est plus à l'étape du crayonné, on est à l'étape de l'ancrage. Vous avez un totem qui tout droit sorti des plaines du Far West ou des plaines tibétaines, et dans la version ancrée, et un arbre. Alors je fais une photo que fournie par Geneviève Lortieri. Je sais pas d'où vous sortez, c'est votre photo personnelle.
C'est ma photo, c'est une photo. C'est un chêne
saxon
d'Angleterre, anglo-saxon.
Mais c'est pareil. Donc voilà comment on passe d'un totem, je ne sais pas trop comment le qualifier, à un arbre. Comment est-ce qu'à cette étape donc on n'est plus dans le crayonné, on est dans l'ancrage. Comment est-ce qu'à cette étape-là, on peut arriver encore à des choses comme ça ?
Parce que ça, ce sont des planches que nous avons faites au tout début, en réalité, pour donner quelques exemples. Et donc là, je n'ai pas eu du tout d'informations. Elles me sont arrivées comme ça, elles me sont arrivées à l'étape de l'ancrage. Donc, sur le totem, alors j'explique le totem. Donc ça, c'est censé être l'Hermannsöl, c'est-à-dire... un chêne sacré, un des nombreux chênes sacrés des Saxons qui était censé maintenir la voûte du ciel, puisque comme vous savez, tous les barbares craignent toujours que le ciel leur tombe sur la tête. Il n'y a pas que les Gaulois, les autres aussi. Alors pourquoi ils sont arrivés à ça ? Ben parce que le dessinateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tapé Hermannsöl dans le moteur de recherche Google ou je ne sais lequel il utilise. Et quand on cherche Hermannsöl, on trouve ça. On trouve ça parce que ça, c'est le motif, je dirais, actuel, enfin, médiévalisant, nos rois, héroïque fantasy, tout ce que vous voulez. Donc, lui, il ne pouvait pas savoir. Tant que je ne lui fournissais pas de visuel, s'il ne m'en demandait pas, forcément, ça devenait ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, mais ça, ce n'est pas possible, c'est un arbre. Donc, c'est un arbre. Et donc, voilà. Donc, on a changé. Mais,
un autre exemple. C'est celui-ci, donc on est encore à l'étape de l'ancrage. Les deux, on a deux planches, enfin c'est la même planche, mais qui a été retravaillée, et la différence, elle est sur, alors c'est pas très lisible, elle est sur le pape en bas à gauche. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle est la différence, pourquoi, et comment on en est arrivé là?
L'idée, c'est que donc, c'est le moment où le pape prête serment devant Charlemagne et tous les Francs et les Romains assemblés, qu'il n'est pas coupable des crimes dont on l'accuse. C'est ce qu'on appelle le serment purgatoire. Et on sait, par les textes, qu'il l'a fait en prenant les évangiles et en les mettant au-dessus de sa tête pour attirer sur lui la foudre de Dieu au cas où il ne dirait pas la vérité. Et dans les premières planches, plusieurs fois, j'ai dit « il ne doit pas avoir le livre devant lui, mais au-dessus de lui ». Or, il me semblait que dans la partie, dans la planche de gauche, bon, il le regarde, hein, il est comme ça. Alors, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se couvrir la tête. Donc, j'ai demandé à ce que ça soit refait. Et ça, c'est typiquement quelque chose que j'ai... Alors, je sais plus à quelle étape... J'aurais dû le voir sur le crayonné, je l'ai peut-être vu. Je crois que d'ailleurs que je l'ai vu, mais que ça n'a pas eu beaucoup de... Voilà, il a fallu insister. C'est quelquefois, l'information ne circule pas forcément si vite qu'on croirait qu'elle circule. Donc, il faut insister, revenir...
Ce qui se passe en général, c'est qu'entre le dessinateur et puis les scénaristes, c'est sur ce genre de sujet en fait que des fois ça se goupille un peu mal. C'est qu'on n'a pas les mêmes impératifs en tant que dessinateur que l'historien. L'historien, il a vraiment un sujet à retenir et surtout à nous dire non, c'est que comme ça que ça pouvait se passer. Et nous, on a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, la taille des colonnes, la tronche que peuvent avoir les personnages, les vêtements, etc. Donc il arrive que certaines fois, on se retrouve avec des petites erreurs de broutille, etc. Alors forcément, quand ça comprend des grandes cases qui font des doubles pages, ça serait très problématique. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire entre les deux ou de conjuguer pour que ça puisse être le moins fatigant pour le dessinateur et le plus plaisant pour l'historien. Après, pour des petites cases comme celle-là, je pense que ça reste encore facile d'accès et du coup, on peut s'en sortir.
Il y a la nécessité de combler les blancs de l'histoire. Il y a des choses qu'à l'écrit, on peut, nous, historiens, on ne sait pas et on le met sous le tapis gentiment. En tant qu'historien donc, qui chapeaute une bande dessinée, jusqu'à quel moment pouvez-vous cautionner un écart avec ce qui vous semble vraisemblable? Alors, je donne un ou deux exemples. Là, vous avez l'exemple du crayonné et de la planche qui représente en bas à gauche l'envoyé du pape auprès de Charlemagne. Quelle est la différence entre le crayonné et la planche? C'est que dans un des deux cas, il est tonsuré et dans l'autre, il ne l'est pas. Ça paraît évident pour un médiéviste que l'envoyé du pape soit un ecclésiastique.
Mais c'était pas évident pour les sénateurs, et je comprends bien que ça n'ait pas été évident.
Donc ça, par exemple, vous pouvez pas le cautionner.
Ça, je pouvais d'autant moins le cautionner que le personnage en question, qui s'appelle Pierre, on le connaît, enfin, il existe pour de vrai. Donc voilà. Moi, je m'en suis tenue quand même aux exigences de l'éditeur qui était rien dans cette production ne doit prêter le flanc à la critique de non-véracité historique. Voilà. Alors, à partir de là,
c'est
très, très difficile et je ne suis pas sûre qu'on soit arrivé. Mais enfin, il faut faire.
C'est un idéal.
C'est un idéal auquel il faut tendre. Et donc là, le Pierre qu'on connaît bien, qui était l'envoyé du pape auprès de Charles, je ne pouvais pas en faire un laïc. Alors que dans un autre cas, je ne sais pas si vous avez la planche de Théodule.
L'exemple. Ouais.
Dans un autre cas, là c'est pareil, hein, c'est un... Charlemagne envoyait en tournée des sortes de tournées d'inspection, des gens qu'on appelait les missi dominici, les envoyés du Seigneur, c'est-à-dire les envoyés du roi, qui souvent étaient des ecclésiastiques. Et nous avions mis en scène avec les scénaristes le retour de mission de Théodulphe, évêque d'Orléans, mais rien ne disait dans le texte qu'il était évêque d'Orléans. C'était juste Théodulphe qui venait raconter qu'on avait essayé de le corrompre et que c'était pas bien et qu'il faudrait qu'il fasse attention. Et quand la planche m'est arrivée, le Théodulphe en question était pas du tout un ecclésiastique. J'ai donc dit, à ce stade-là, on ne va pas refaire tout, c'est exclu, mais on va dire que ce missus est un missus laïque. Donc, on ne va plus l'appeler Théodulf, parce qu'on l'a enlevé, hein, parce qu'il y avait aussi des missis dominici qui étaient des laïcs. Donc là, on peut s'en sortir. Il suffit de changer le personnage.
Connaître l'histoire.
Et de connaître l'histoire.
Mais donc, il était impossible de le laisser, pour vous, de cautionner qu'il s'appelle Théodulf et qu'il
soit... Ah ben ça, c'était pas possible, non. Ça ne pouvait pas être Théodulf d'Orléans si c'était un laïc. Non, ça, c'était pas possible.
Si on prend cette planche, c'est un exemple, alors là, pour le coup, qui n'est pas modifié, c'est un exemple de ce qu'on pourrait appeler un échec. Pourquoi ? Parce que, donc là, on est sur l'Assemblée Générale des Francs, à Erstal. On a vraiment l'impression d'être à une assemblée de druides champêtres. Est-ce que ça, par exemple, vous n'avez pas réussi à... Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de pages, mais vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez faire. Comment, pourquoi ça n'a pas marché ?
Je crois que c'est de ma faute, c'est-à-dire que je pense que je n'ai pas réussi à faire passer ce que je croyais être juste parce que ce n'était pas suffisamment clair dans mon propre esprit. C'est-à-dire que je n'ai pas une représentation figurée suffisamment évidente de ce qu'est l'Assemblée Générale des Francs pour que ça ait pu arriver jusque... voilà. Parce que la difficulté, c'est ça. Des textes qui racontent l'Assemblée Générale, on en a plein. Mais ils ne racontent pas du tout les choses factuelles. Ils disent, alors, il y avait les ecclésiastiques, il y avait les laïcs, et puis il y avait le roi en plein air. Bon, d'accord, alors comment ? Sous des tentes, sous des auvents, sous des arbres, bon. On a refait cette planche plusieurs fois pour finir... Bon, on a dit qu'on allait s'en tenir là, mais c'est vrai que ça ne me satisfait pas, c'est sûr, mais bon.
Est-ce que ce travail fait émerger pour l'historien, en retour, des questionnements inédits ? Est-ce que, alors bien sûr, sur les aspects matériels, on s'intéresse à des choses qui, pour vous, qui ne vous ont sûrement pas interloqué jusqu'à maintenant, mais au-delà de ça, sur toute la complexité psychologique et sur plein de choses que nous, historiens, on ne représente pas, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse au fond. Est-ce que ça vous a permis de vous aventurer plus loin et d'ouvrir des questionnements nouveaux, ce travail ?
J'ai pas essayé d'ouvrir des questionnements nouveaux parce que j'avais déjà tellement de questions auxquelles répondre qui étaient difficiles pour moi et en particulier tout ce qui était de la culture matérielle puisque là on est quand même à une époque du Moyen-Âge assez haute pour laquelle on n'a pas énormément d'éléments sur la culture matérielle. Il n'y a plus rien dans les tombes, hein. On n'enterre plus les gens ni avec leurs armes, ni avec, etc. De l'archéologie, bah, des bâtiments debout d'époque carolingienne, il y en a guère. Il y a la chapelle d'Aix, mais il n'y a plus que la chapelle. Il n'y a aucun palais carolingien n'est conservé en l'état. Donc, très souvent, on m'a dit « Est-ce que tu peux nous fournir un visuel pour telle chose ?» J'ai pas de visuel, j'ai rien du tout. Ça n'existe pas. Et au mieux, ce que j'ai comme visuel, ce sont des images produites par les Carolingiens, par exemple des enluminures, hein, des miniatures sur les manuscrits, qui ne garantissent pas du tout que c'était la réalité.
Parce que ça pouvait déjà être déformé, si ça se trouve, à la base.
Exactement. Et en particulier, ouais, avec le casque. Hein. Bon, on a choisi de représenter, bon, on en voit un là, hein, les casques conformément à la miniature, à plusieurs miniatures carolingiennes. Je ne suis pas du tout convaincue. C'est-à-dire, ça, c'était très, très drôle, puisque quand je les ai vus, j'ai dit, c'est quoi ces casques de conquistadors ? Ils m'ont dit, mais c'est ce que tu nous as donné. Bon, d'accord.
Ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Je n'ai pas les images là, tout à l'heure.
D'accord, tout à l'heure.
Une autre question, c'est quelle part attribuer à la légende ? Vous prenez que des personnages extrêmement connus qui sont accompagnés dans l'imaginaire de tout un chacun d'un tas de topoi. Si on prend l'exemple de la fondation de l'école républicaine par Charlemagne, Charlemagne a fondé l'école de Jules Ferry, en gros, on a l'idée de Charlemagne qui vient au palais et qui récompense les élèves studieux mais pauvres et qui réprimandent les élèves cancres mais riches. Ça vient pas de Jules Ferry, hein, ça vient d'un texte de la fin du IXe siècle, rédigé par un moine de Saint-Gall à l'attention de l'arrière-petit-fils de Charlemagne. Et ça, vous l'expliquez dans le making-of, et vous le remettez à sa juste place dans la bande dessinée en expliquant qu'il s'agissait en fait d'éduquer l'administration et pas d'éduquer le paysan de base. Ça, vous le montrez dans la bande dessinée, et donc là, pour le coup, vous reprenez le mythe et vous lui tordez le cou. À l'inverse, l'image de Charlemagne qu'on a tous en tête, c'est l'empereur à la barbe fleurie. pour nous, Charlemagne, alors il n'a pas des fleurs dans la barbe, c'est pas non plus un hippie, mais il a au moins une barbe. On imagine tous, Charlemagne n'a qu'une barbe. Sauf que cette image est apparue en fait à peu près 3 siècles après sa mort. Et là encore, c'est pas une image du 18e, hein, c'est une image médiévale, mais bien après la chanson de Roland. Mais pas du tout contemporaine. Est-ce qu'il serait possible d'intégrer tous ces éléments de façon ironique et en tout cas de jouer sur ces éléments dans la bande dessinée ou pas? Est-ce que le but c'est de dénoncer un peu, pour l'école par exemple, vous remettez à sa juste place d'où vient le mythe en fait? Est-ce que le but c'est un peu de lui tondre la barbe en direct pour dénoncer le mythe ou pas du tout? On attend des choses dans Agnani, on attend la gifle
qui ne vient pas.
Dans Charlemagne, on attend la barbe qui ne vient pas. Il y a beaucoup de choses qu'on attend et qui ne viennent pas. Et on se dit, pourtant, je sais qu'Agnani a une baffe.
Alors, on sait, mais non, en fait, non. C'est toujours la question, c'est que j'en ai discuté avec Mathieu Gabella plutôt qu'avec les historiens avec qui j'ai travaillé, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Mais, pardon, excuse-moi, la gifle d'Agnani, c'était plus. Ça a plus lieu effectivement d'un mythe. Sauf qu'on a décidé qu'on ne ferait pas une BD sur des mythes, c'est-à-dire sur ce qu'on sait des personnages, etc. Philippe Lebel, on a bien choisi de parler d'autre chose que les Templiers, parce que tout le monde, en tout cas, a une image de ça, ça a été pas mal décrit. Et bon, l'attentat d'Agnani, c'était de raconter comment ça avait dû se faire à l'époque. Je pense qu'une gifle au pape, à l'époque, devait sûrement être proscrite. C'est-à-dire qu'on imagine bien que ça pouvait se faire, sauf dans des cas un peu spéciaux. Et là, du coup, pour cet élément-là, non, ils ont dit non, ça sert à rien qu'on le fasse, on va pas déclencher d'autres critiques aussi, parce que l'intérêt du bouquin, c'est pas de déclencher d'autres critiques, à savoir si c'était vrai, c'est pas vrai, etc. L'intérêt, c'est pédagogique sur toute l'histoire. Hein,
Est-ce que vous avez hésité, par exemple, à la fin des ouvrages, à faire un encart sur, par exemple, la dimension post-existence du personnage? Par exemple, toute la dimension idéologique qui a pu être prise par la Troisième République, ou pour Charlemagne, je pense, mais pour d'autres, ou la légende noire de Philippe Lebel, qui y a déjà un écho sur la légende noire au début. La première page de Philippe Lebel s'ouvre justement sur cette légende noire qui commence, juste à sa mort, à émerger. Est-ce qu'il y a eu un problème, justement, dans cette mise à l'écrit, alors soit à la fin, soit au cours de l'écriture, avec ces légendes, et ces légendes plus ou moins noires, plus ou moins positives?
Ce qu'il y a, c'est que dès le départ, enfin, le cahier des charges, c'était de faire un truc le plus proche de la réalité historique. À moins d'inventer le voyage dans le temps, on n'arrivera jamais à ça. Donc du coup, on se sert essentiellement des travaux qui sont faits par les historiens, qui sont a priori censés être les plus érudits sur le domaine, et surtout qui vont pouvoir travailler vraiment en profondeur, et l'amener au scénariste, qui va lui juste devoir jongler entre ce qui est censé être aujourd'hui comme le plus correct au niveau de la véracité et le côté dramaturgie. Donc du coup, il va devoir jongler entre tout ça. Donc effectivement, prendre peut-être des anecdotes comme la gifle, ils se sont posé la question et puis finalement ils se sont dit non, on reste sur le côté véracité. C'est pas de tout ça qu'on raconte. On raconte Philippe Lebel, on raconte pas d'ailleurs l'attentat d'Agnani. Ça fait partie de l'histoire, mais c'est autre chose.
Et du coup, j'ai deux questions successives, d'une part à l'historienne et d'autre part au dessinateur. Pour le dessinateur, bon, je commence par... juste celle qui me vient là pour l'instant, c'est le dessinateur. Jusqu'à quel point t'as pas été influencé par les représentations iconographiques qui étaient déjà existantes sur la période, sur le personnage? Par exemple, je pense à la peinture historique du 19e siècle. Il peut y avoir des poses, notamment au niveau des sacres, au niveau des positions, des personnages qui peuvent potentiellement être fausses, avec tout ce qu'on a vu sur Viollet-le-Duc, c'est la différence entre le Moyen-Âgeux et le médiéval.
Tout à fait.
Et à quel point ça n'a pas interféré, même inconsciemment?
Alors ça a interféré certaines fois, et là justement, c'est de nouveau l'échange avec les historiens, c'est que des fois ils m'ont dit non, attends, il n'a pas du tout cette tête-là, ou la cathédrale n'était pas ça du tout, c'était plutôt une petite église dans un coin perdu, etc. Non, c'était... Donc à chaque fois que je faisais une petite erreur, ou en tout cas pour eux qui étaient à leurs yeux pas... trop importante, du coup, ils allaient me le dire. Et puis pour certaines choses, je pense notamment, par exemple, je sais pas, j'ai dessiné des armures ou des costumes qui sont pas forcément exacts. Sauf que bon, après, si on veut vraiment être juste sur tous les points, tous les éléments, on y passerait, je pense, une vie entière en tant que dessinateur à vouloir faire juste un bouquin. parce qu'on aurait besoin de regarder tous les éléments un par un, chercher la bonne documentation, chercher le bon élément. Sauf que bah, quand on dessine, je ne sais pas, une scène de banquet, on a plein d'éléments pour faire un banquet. L'idée, c'est que le lecteur s'imprègne d'un banquet comme ça devait l'être à l'époque. Si je commence à vouloir regarder la vraie coupe qui devait avoir lieu à ce banquet-là, je ne la trouverai jamais. Et, ou alors, en tout cas, ce que je peux faire, c'est l'inventer. Donc, du coup, me servir de mon propre imaginaire que j'ai acquis avec mes lectures passées, avec les films que je peux voir. Et donc, du coup, sortir un élément qui puisse paraître correspondre au cadre. Mais sinon, on ne finirait jamais. On serait toujours en train de trouver quelque chose de compliqué, à dire « Ah, c'est pas le bon truc », etc.
J'ajouterais même qu'un dessinateur n'y suffirait pas et un historien n'y suffirait pas, parce qu'il faut un historien de la nourriture, un historien de
c'est pour ça que je... un historien de c'est la pour céramique. Ça qu'il... Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, inventé le voyage dans le temps pour vraiment revenir au moment et dire « Ok, c'était comme ça que ça se passait », on continuera de l'imaginer et il y aura toujours des erreurs. Il y aura forcément toujours des erreurs.
En termes d'imagination, pour l'historien, quand on ne sait pas, quand on ne peut pas savoir, parce qu'on a beau feuilleter de nombreux ouvrages, on ne trouve pas parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est introuvable. Est-ce que fonctionner par analogie, ça fonctionne ou...
C'est ça. On essaye de trouver la chose probablement la plus proche, qui nous semble probablement la plus proche. C'est exactement ça.
Là, on parlait justement de la question des sources. Est-ce que l'historien donne au départ du projet une banque de données au dessinateur en disant tiens, mange, voilà ce que je peux te donner? Ou est-ce que vous répondez à des demandes ponctuelles sur du long terme? Je ne sais pas, si on prend par exemple la couverture du Charlemagne, on a en bas à droite une représentation, une maquette fournie par Geneviève Buratiri aux auteurs de la bande dessinée. Et à droite et en haut, la couverture, bon, qui d'ailleurs retranscrit une Rome un peu plate, pour être critique. Un autre exemple, en haut à gauche, une peinture de fresque sur un mur, parce qu'au Moyen-Âge, là, quand même, l'immense majorité des murs sont peints, avec des couleurs. Et en bas à droite, une reconstitution, alors, avec le premier mur qui est vierge, et puis en bas, ils ont quand même mis des aigles, enfin, un début de fresque, là. Mm-hmm. Est-ce que vous répondez à une demande ou est-ce que vous anticipez la demande?
Les deux, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai donné un certain nombre d'éléments visuels, notamment sur les armes, les armures, les casques, etc. Quand j'ai trouvé des choses, c'est-à-dire quand on travaille à un projet comme ça, et ça dure des mois et des mois, je ne sais même pas combien de temps on a travaillé. On a l'esprit alerté par des choses auxquelles on ne ferait absolument pas attention. Moi, je ne suis pas historienne de la culture matérielle. Je fais de l'histoire sociale, politique et sociale, disons, culturelle éventuellement. Mais les décors des palais, la forme des coupes, ça, c'est quelque chose qui m'avait jamais... Alors qu'en ayant ce projet en arrière-fond de ma pensée, chaque fois que je trouvais quelque chose, c'est « Ah, ça va servir pour faire ça ». Donc, voilà, je constituais un petit dossier, puis de temps en temps, j'en voyais. Hein. Et puis après, bien sûr, je répondais à la demande. Quand on me disait « Alors là, on a besoin de faire un palais carolingien, comment on va faire ? Est-ce que, as-tu un visuel de palais carolingien ?» Je disais non, mais j'essayais quand même de donner des éléments.
Et donc là, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, le problème de la documentation. C'est-à-dire que vous fournissez ça... À la Bible de Vivien, vous finissez la documentation carolingienne contemporaine à vos dessinateurs pour la couronne ou pour ceci ou cela. Eux notent la forme des casques qui sont sur ces Bibles et sur ces fresques, et ils vous font des casques qui semblent tout droit sortis des conquistadors. Ce qui vous en retour vous choque, et puis on vous répond bah oui, mais c'est
dans la documentation. C'est dans la documentation. Alors, moi, ce que je pense quand même, au fond de moi, c'est que les casques qu'on voit sur la miniature carolingienne sont des casques d'apparat et pas des casques... Voilà, on voit bien, c'est la cour. Et pas des casques pour le champ de bataille. Mais en même temps, comme je n'ai pas autre chose pour savoir comment sont les casques sur le champ de bataille... Ben, voilà.
C'est très compliqué, parce que c'est toujours ça.
C'est très compliqué.
Il y a tellement d'éléments, que ce soit la petite broche qui sert à maintenir le bidule, etc. On n'a que ça. Après, il y a aussi... moi, en tant que dessinateur, je me suis retrouvé en espèce d'inspecteur du net, c'est-à-dire que j'ai regardé partout, on regarde partout, à un moment des fois, on se retrouve juste sur un petit détail qu'on se rend compte est important. Et du coup, je me suis retrouvé à regarder des forums de gens qui font de la reconstitution, qui effectivement sont aussi une source, parce que eux, justement, alors ils vont pas faire le social de l'histoire, mais ils vont faire au contraire le côté matériel. Il y en a quelques-uns qui font ça bien. Et puis des fois, eux-mêmes se trompent. Donc du coup, on arrive à plus trop savoir regarder. Avec les historiens avec qui j'ai travaillé, ça s'est passé sur, par exemple, le palais du Latran ou Saint-Pierre de Rome, qui ont été complètement changés depuis. Et du coup, je me suis retrouvé avec des éléments qui n'étaient pas réalisables en l'état. Ils m'ont juste indiqué que ça devait ressembler à telle abbaye, tel truc qui existe encore, donc certains pour que tout ça ressemble. Mais c'est évident que ça ne sera jamais comme ça devait l'être à l'époque, puisqu'on n'en a aucun visuel. Et les images qu'on a de cette époque ne sont pas toujours aidantes, parce qu'effectivement, c'est trompeur. Enfin, comme tu dis, c'est des casques d'apparat, c'est difficile de concevoir ça dans un casque de guerre, mais en même temps, c'est impossible à deviner, parce que le dessinateur n'est pas historien non plus. C'est vraiment la conjugaison de différents savoirs quoi, qui fait que ça puisse marcher au mieux.
Juste une remarque par rapport à ça, la question est aussi de savoir, alors est-ce que c'était des casques d'apparat ou est-ce que c'était aussi une façon de donner un lustre à Charlemagne avec la question de la rénovation des périls?
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire donner un lustre au roman, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça.
Pas du tout faire photo de l'époque. Mais
si ça se trouve, le casque en question n'a jamais été comme ça, même à la cour. Oui, c'est-à-dire, bien sûr. Ça, c'est le problème de toutes les images dont on dispose.
Bien entendu.
Tout à fait.
C'est la même chose pour les enluminures du 14e, 15e siècle qui datent de.
Exactement.
En fait, les représentations ont un siècle ou deux de retard à chaque fois.
Ouais.
De toute façon, là, pour. Ce sont des questions qui interviennent évidemment sur chaque album. Et hormis...
Moins sur Jaurès, j'imagine.
Alors, voilà, ce que j'allais dire, c'est que sur Jaurès, on a tout un tas de photos, voire même des films de l'époque, qui permettent d'avoir des représentations des décors, de l'intérieur, des objets du quotidien. Et donc la question ne se pose même pas. Le dessinateur a pu avoir accès très facilement de lui-même à toutes ces documentations iconographiques. L'historien était plus là en termes de dramaturgie et de sens. Surtout l'aspect visuel, Vincent Duclerc est relativement peu intervenu, alors que sur tous les albums jusqu'à 1800-1850, de toute façon, la représentation, elle ne tient compte que de ce qui est disponible. Et plus on va loin dans le temps, et moins on a de documentation, et donc plus on est sujet à l'invention, et au sens vraiment recréer ce qui pouvait être à l'époque. Les dessinateurs ne peuvent pas inventer comme ça. Je préfère qu'ils s'attachent à retrouver ce genre de casque parce qu'il y a une représentation qui a été faite quelques temps après, même si c'était pas ça, plutôt qu'ils inventent par eux-mêmes quelque chose qui sera de toute façon complètement faux. Mine de rien, on s'attache à quelque chose qui est historique, c'est ce tableau-là. Avec Julien Loiseau sur Soliman, les questions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions sur les uniformes ou sur la représentation des tentes ottomanes. Il dit, voilà, il n'y en a pas qui ont traversé les siècles. Donc, on est obligé de s'en tenir aux représentations telles qu'elles sont sur des tentures, sur des visuels de l'époque ottomane et qui sont très schématiques. Et même à l'époque napoléonienne, où il y a énormément de visuels, sauf que ce sont des tableaux qui sont faits légèrement après et qui servent surtout à la propagande de Napoléon. Comment on va juger la qualité de la représentation de la peinture d'un Lejeune, d'un David, etc. On est obligé d'accepter que ces visuels sont faux, mais peut-être plus vrais que ceux que le dessinateur d'aujourd'hui va pouvoir inventer.
Alors, vous avez pris les personnages les plus connus de l'histoire parce que c'est ça que le lecteur attend. De même, est-ce qu'il faut prendre les scènes les plus connues de leur vie parce que c'est ça que le lecteur attend? Et je pense à un passage précis dans le Philippe le Bel. Le lecteur qui, depuis qu'il est enfant, entend parler des Templiers deux fois par jour, attend justement une, attend que les Templiers brûlent, attend du Templier par-ci, du Templier par-là. Enfin, Philippe le Bel, c'est le Templier.
Je te maudis.
Voilà, c'est ça.
Jusqu'à la septième génération.
On a vraiment les rois maudits. Enfin, nous, notre génération n'a pas forcément vu les rois maudits, mais en tout cas, on l'a en tête et ça reste une référence générale. Pourquoi ici avoir cette image d'Épinal, mais qui n'est pas complètement fausse, pourquoi l'avoir minimisée? Est-ce que vous risquez pas de décevoir votre lecteur en,
A priori, non, parce que jusqu'à maintenant, les critiques qu'on a pu avoir sur la BD, on en juge aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le savoir tant qu'on la faisait. C'était un peu un pari avec Gabella et les historiens de choisir cet angle d'attaque sans montrer les Templiers. Oui, c'est aussi de dire on va peut-être faire autre chose que ça, puis c'est surtout que Gabella avait lui le sentiment qu'il y avait autre chose à raconter que les Templiers.
Parce que Valaïdès insiste beaucoup sur l'aspect financier, les finances royales, tout à fait. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup moins glamour que des Templiers sur un bûcher.
Mais ils sont beaucoup plus importants historiquement.
Oui.
Plus importants historiquement et aussi d'ailleurs d'actualité finalement. Parce qu'il a fait ça aussi en disant attends, il y a quand même des réminiscences avec l'histoire maintenant moderne, tout ça, c'est quand même assez incroyable. Après les Templiers, moi j'étais un peu d'accord avec Gabella, c'est genre oui, effectivement, on attend, les gens attendent ça, les critiques. Aujourd'hui, nous répondent que non, c'est plutôt bien. On fasse autre chose que Templier. Philippe le Bel, il a été un grand roi à sa mesure par rapport à d'autres, mais du coup, parce que il a fait le royaume de France ce qu'il était avec les moyens du bord, avec plus de rois, etc., etc., qui était plus intéressant à mon sens que de raconter la vie des Templiers, qui en plus c'était autre chose, quoi. C'était aussi une autre partie de l'histoire, en fait, on va dire, les Templiers.
Vous ne croyez pas que vous participez à un complot en camouflant cette histoire des Templiers?
Complètement, allons-y.
Il y a des gens qui vont vous raisonner comme ça.
On va les laisser raisonner alors,
effectivement.
Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix de l'angle de la biographie, c'est un choix. Le fait d'utiliser les grands noms, les grands personnages, c'est vraiment pour attirer le lecteur, le prendre par la main et lui dire « Tiens, je vais te parler de Philippe le Bel, mais derrière Philippe le Bel, je vais te raconter l'histoire de la France du Moyen-Âge en l'an 1300. Et je vais te le raconter avec l'histoire telle que, justement, tu le disais tout à l'heure, les historiens veulent le raconter aujourd'hui. »
Telle qu'on la sait aujourd'hui.
La notion de personnage, c'est vraiment c'est l'appât.
C'est presque de la micro-histoire inversée, quoi. C'est-à-dire prendre un grand personnage, mais en faire le laboratoire d'une époque. Et juste, j'ai une question, juste à propos de ce que tu disais sur le fait que c'est d'autant plus intéressant la crise financière de Philippe le Bel, qu'on est aussi à une période de crise. Est-ce que, finalement, en choisissant des thématiques nouvelles sur, par exemple, la construction de l'État royal et tout, c'est tout à fait dans la ligne historiographique actuelle et tout à fait. Voilà, mais à quel point c'est pas non plus un autre biais, puisqu'on est dans, on parle beaucoup aujourd'hui de crise de l'État, de crise financière et tout, mais c'est finalement aussi reprendre une nouvelle ligne historiographique qui reste en partie biaisée. Que je m'exprime mal peut-être.
Si je traduis la vision, on présentait tout à l'heure l'histoire de France chez Larousse, qui proposait une vision et une version de l'histoire qui était celle, un, des auteurs et des historiens qui ont travaillé sur cette collection à cette époque-là, dans les années 70. Ces albums-là, ce sont des albums des années 2010-2020, avec des historiens d'aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est le regard de ces historiens-là qui prévaut. Je pense que Charlemagne, sans te faire injure, on aurait pu travailler avec un autre historien spécialiste de la période. On aurait très certainement eu un album différent parce que l'angle choisi aurait été différent. Sur Philippe le Bel, c'est pareil. Très clairement, l'envie de Mathieu Gabella de traiter de le côté manipulateur du personnage de Philippe le Bel a rencontré les aspirations des historiens à parler de la manière dont il a pu imposer l'État royal à cette époque-là. Je prends un autre scénariste, je prends un autre historien, j'ai un album complètement différent.
C'est que je veux dire, c'est que le choix de l'historien biaise en partie le récit, mais après, on biaise. De toute façon, il y a un biais à la baisse, puisqu'il n'y a pas de vérité historique.
Exactement.
Voilà. Donc, à partir de là.
Alors, en revenant sur la question des sources, là, on est non pas sur le passage d'Hannibal dans les Alpes, mais sur le passage de Charlemagne dans les Pyrénées. Est-ce que de toute évidence, en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, le dessinateur a
a eu à l'esprit là, le passage d'Hannibal. On a vraiment l'impression de... Alors, il n'y a pas d'éléphant.
Il n'y a pas d'éléphant.
Mais on est... Alors, déjà, il y a de la neige. Enfin, c'est impressionnant. Dans les Pyrénées, ce n'est pas tous les jours qu'il y a ça. Et,
parce que tu n'y vas pas souvent.
Tu suis quand même. Mais ça, est-ce qu'il y a une inspiration consciente ou inconsciente de ça, ou, est-ce que ça a été discuté avec vous ou pas, ça?
Pas du tout.
Moi, ça ne m'a pas du tout choqué, cette image-là. Je trouvais que c'était une... belle image du passage d'une armée dans une montagne difficile et... dans un passage difficile, et il faut bien d'une manière ou d'une autre rendre la difficulté. Voilà, alors il y a un peu beaucoup de neige, et là c'est pareil, j'ai vu cette neige une fois qu'il y avait la couleur, parce qu'avant avant, je pouvais pas savoir que ça allait être enneigé. Donc bon, mais en même temps, voilà, si on passe des cols un peu tard dans la saison, un peu haut.
Après, on peut aussi discuter de la question du climat qui a évolué.
Exactement.
C'est un mini âge glaciaire carolingien, en fait.
Exactement.
Si on passe sur le gibet de Montfaucon, qui ouvre le Philippe le Bel, et la pendaison d'Enguerrand de Marigny. Donc à chaque fois, on a des sources plus ou moins contemporaines et de l'autre côté, la bande dessinée. Donc il y a cette image-là. Alors là, on est sur une source du 18e, je pense, ou 19e. Et, là, voilà. Et puis là, c'est la bande dessinée. De quelle source tu es parti, par exemple, pour ce JB et à quel point est-ce que les sources 19e t'ont inspiré ou pas? Voilà. À quel point est-ce que les sources contemporaines t'ont inspiré?
Moi, j'ai cherché mes sources sur Internet. J'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait sur le gibet. Hein. Je suis pas historien, donc du coup, je ne connaissais pas trop ce gibet-là. Et donc, je suis arrivé avec ça sur Internet. J'ai eu plein de choses avec un certain nombre de colonnes, avec différentes formes, différentes tailles, différents publics, etc. C'était jamais clair. J'ai vite compris qu'il fallait que je m'intéresse avec les historiens. L'historien, j'aurais demandé qu'est-ce que je fais. J'ai ça. Quelle est la meilleure solution pour moi de représenter le truc? Tout en comprenant le côté dramatique. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi l'intensité dramatique que je veux mettre dans le dessin. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire abstraction de certaines choses véridiques au profit de la dramaturgie. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé une des versions du gibet où il y avait 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus combien de colonnes, et puis 4 étages au lieu de 3, machin, tout ça. Voilà, c'est qu'on est à droite. Et avec également toute la scène royale en face, j'ai fait ça d'après mon imaginaire que j'ai nourri avec les images que j'ai trouvées sur Internet. En gros, j'ai fait une espèce de brassage de tout ça en essayant, bien sûr, à chaque fois, d'être le plus réaliste, le plus crédible possible. Et c'est aux historiens de me dire si ça correspond ou pas. Donc du coup, a priori, s'ils m'ont validé, c'est qu'ils ont dit ça marche, a priori, pas de problème. C'est surtout des sources sur Internet et sur le Raval. Quoi.
Est-ce que le vrai problème, c'est l'abondance de sources ou l'absence de sources? Quand Mathieu Gabella, qui en fait plusieurs, il dit, en fait, c'est sur Catherine de Médicis. Donc on lui demande, est-ce que c'était dur, Philippe Lebel? Il répond, en fait, c'est sur Catherine de Médicis, dont la vie est plus récente, donc mieux renseignée, que j'ai eu le plus de travail de tri. C'était une autre paire de manches. J'ai discuté avec Chris qui fait le Charles de Gaulle et le Churchill. Qui vraiment se dégarcasse parce que alors il va faire alors lui il fera plusieurs volumes il m'a dit je crois ouais. Mais il se dégarcasse vraiment parce que déjà il faut vraiment avoir un angle enfin c'est le problème est pas le même est-ce que les personnages contemporains sont réellement plus simples ou au contraire plus difficiles selon vous alors selon vous là pour le coup
je dirais chaque personnage a sa particularité et sa difficulté d'accès. Pour ce qui était de Philippe le Bel, bah, effectivement, on n'avait pas tant de documentation visuelle que ça, donc pour moi c'était compliqué. Les historiens étaient là pour venir m'aider si besoin. Effectivement, peut-être que pour Catherine de Médicis, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de documentation. Mais après, c'est pour un autre personnage, il pourrait ne rien avoir. Et là, l'idée, ça serait de faire avec que ce qu'il y a. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est juste c'est difficile dans tous les cas. En tous les cas, c'est difficile. C'est comme ça, quoi.
Oui, c'est difficile et je pense que bon, plus évidemment, plus on remonte dans le temps, en principe, et moins on a d'informations. Je me suis souvent dit que Charlemagne c'était difficile, mais que si on m'avait demandé de faire Clovis, c'était quasiment impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais il faut inventer presque tout, parce que là, c'est un personnage qui existe à peine. Clovis, c'est une invention littéraire de Grégoire de Tours. Il y a pas de matérialité historique autour de ça, donc ça serait extrêmement difficile.
Il y a une... Moi, je ferais la différence entre les sources icono et l'aspect scénario. Parce qu'effectivement, ça va être plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire, sur le... pour la documentation visuelle, plus on se rapproche de l'aspect contemporain, on a des photos, facile. Des films. Donc c'est là, c'est très facile.
C'est facile.
Et plus on s'éloigne, et plus il faut inventer. À l'inverse, pour les scénaristes, je dirais que la question est différente. C'est pas une question de quantité de sources, que de savoir quel est l'angle qu'il faut choisir. Dans le cas de Catherine de Médicis, avec Mathieu Gabella, la question est vraiment, il y a différents angles qui sont possibles, et comme il ne savait pas au départ lequel il allait choisir, il a été obligé de brasser une quantité d'informations très importante pour arriver finalement par se dire c'est cet angle-là que je vais choisir. Il travaille également sur Talleyrand. Le personnage de Talleyrand, on peut le prendre de tant de manières possibles que voilà, pour l'instant, il en est vraiment encore à réfléchir comment il va aborder le personnage, par quel angle il va attaquer. Si je prends un exemple complètement opposé, un personnage comme Vercingétorix, qui a fait l'objet d'un des deux premiers bouquins, les seules sources existantes sont dans la guerre des Gaules de César. Et encore, c'est évidemment sujet à caution, puisque c'est un ouvrage de propagande. Il n'empêche que le personnage de Vercingétorix est un peu emblématique, il y a quelques sources qui ont été trouvées archéologiques qui permettent de dire telle ou telle chose, les recherches sur Alésia et ainsi de suite. Mais au final, l'album se concentre uniquement sur les deux années qui sont celles du combat de Jules César contre Vercingétorix. L'album évoque sa jeunesse et puis c'est tout.
J'aurais peut-être une dernière question avant qu'on fasse une pause histoire de reposer les esprits. Sur la question, là on parlait de Chris qui va mettre du coup peut-être plusieurs albums pour traiter d'un seul sujet, alors que plus on remonte dans le temps, en fait, c'est pas moins il y a de matière nécessairement historique, et donc plus on peut restreindre le récit à un album. C'est symbolique aussi que ce soit l'époque contemporaine qui exige le plus de développement en termes de narration. Et du coup, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour les traitements de sujets contemporains avec la mémoire, en fait, parce que plus on aborde les sujets contemporains, nécessairement plus on va aboutir à des problèmes de mémoire plus que d'histoire. On va avoir certes des témoignages iconographiques, photos et tout, mais tout ça c'est aussi selon un certain angle. Et par exemple, comment choisir pour De Gaulle de donner plus d'intérêt à sa carrière de chef d'État ou de résistant, de chef de la libération.
Eh bien, on ne choisit pas, on fait les deux.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs volumes.
C'est pour ça qu'il y a... Mais du coup, il n'y a pas une peur finalement de se faire plus attaquer que sur des albums où il y aura moins de choses. Par exemple, sur Philippe Lebel, il y a moins de chances que des descendants de Templiers intentent un procès.
C'est vrai. Bah après, on part pas du
principe.
Il y a des complots. Mais on part pas du principe qu'on soit attaqué déjà en disant que voilà, c'est, on fait un livre et puis on se dit.
Oui.
Si, effectivement, avec Philippe Lebel, on aurait pu choisir de faire deux tomes. Parce que, ou 3, 4, 5.
C'est toujours Charlemagne aussi. Toujours,
c'est vrai que du coup, c'est l'éditeur qui va décider peut-être de dire non, ce personnage-là est assez important. Pour remplir un petit peu ce qu'on peut dire. C'est...
Par rapport à ces questions-là, je vais recentrer par rapport à l'esprit de la collection. Cette collection se veut grand public, populaire, entre guillemets. Elle n'a pas vocation à chaque fois à être universitaire, soit universitaire, soit purement bénéfile. Il y a des contraintes éditoriales, la pagination, le prix, etc., qui font qu'on s'est tourné naturellement vers ce format de bande dessinée. Ce format-là est induit un certain nombre de contraintes, la pagination, on a choisi la couleur, on a choisi un dessin réaliste, etc. Et on utilise ces contraintes pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans ces contraintes-là. Ensuite, il y a un certain nombre de cas. On s'est posé la question sur, effectivement, un personnage comme Napoléon ou un personnage comme De Gaulle, qui sont des personnages à la fois très importants historiquement, mais très importants aussi dans la mémoire collective. Ce qui fait qu'on a choisi pour ces personnages-là de les traiter en plusieurs volumes. je ne vous cache pas que derrière, il y a des volontés aussi commerciales.
Napoléon,
il y a un public important qui s'attache à ce personnage. Bien, nous allons lui offrir un peu plus de volume.
Que Philippe Lebel, il y a...
sur la plupart des autres personnages, on essaye de s'en tenir à un seul album.
Donc on va faire une question.
Quel est le tirage prévu?
Alors les premiers tirages sont les premiers tirages envisagés étaient autour de entre 10 et 12 000 exemplaires. Et comme les deux premiers albums ont été très bien accueillis, on augmente progressivement les tirages. Le Jaurès et le Charlemagne sont sur des tirages à 15 000.
Et c'est amorti à partir de
autour de 10 000.
Alors,
le point mort.
Sur ces chiffres, on va faire une petite pause de